Habituellement, quand on veut rénover une vieille bâtisse qui est vraiment corrompue jusqu'à l'os, on pense tout de suite à un processus hyper contrôlé.
Bah oui, c'est clair. On démolit un mur porteur avec précaution, on refait la plomberie petit à petit.
Exactement. C'est presque chirurgical, en fait. Tout ça pour pas que le toit nous tombe sur la tête.
On cherche surtout à conserver la coquille et à colmater les brèches.
Voilà. Mais imagine une solution beaucoup plus radicale. Ce serait d'inonder complètement la structure, de dissoudre les fondations jusqu'au niveau moléculaire et de tout raser par la force de l'eau.
C'est plus du tout de la rénovation, là.
Ah bah non, c'est un effacement cataclysmique. Et c'est précisément ce que décrit le récit de l'Arche de Noé.
Ouais, on est très loin de l'image du petit bateau en bois avec les girafes qui passent la tête par la fenêtre.
Totalement. C'est le plus long récit des 11 premiers chapitres de la Genèse. Et beaucoup ignorent qu'il s'agit d'une véritable décréation de l'univers. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration en profondeur de ce texte.
Ça.
Et on va s'appuyer sur les notes et les analyses tirées de la 7e session du cours du docteur Kenneth Matthews sur la Genèse. L'objectif, c'est vraiment de décoder cette littérature ancienne, non pas comme un conte pour enfants, mais comme une œuvre théologique sophistiquée.
Il faut vraiment changer nos lunettes modernes pour aborder ça. L'auteur biblique pose une thèse face aux superpuissances de l'Antiquité.
C'est-à-dire?
En gros, l'idée, c'est que la bénédiction divine de la création est tellement menacée par la rébellion humaine qu'elle doit être préservée in extremis. C'est pas juste une histoire de sauvetage.
D'accord, je vois. Et pour bien comprendre cette fameuse décréation, faut d'abord regarder l'architecture du truc. Parce que la montée des eaux, c'est pas juste un gros orage qui a mal tourné.
Non, pas du tout. Le vocabulaire hébreu décrit un renversement littéral de Genèse 1.
C'est fou, ça. Donc ça annule la création, étape par étape.
Exactement. Au début de la Bible, Dieu instaure l'ordre en séparant les choses. Il sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas, puis l'eau de la terre ferme.
Ouais, il crée des frontières.
C'est ça. Et le déluge, bah, c'est l'inverse. Les barrières cèdent, les sources de l'abîme s'ouvrent, les écluses du ciel aussi. L'univers retourne à son état de chaos aquatique originel.
Donc c'est vraiment une démolition structurelle. Et au milieu de ce vide liquide, la seule chose qui reste, c'est l'arche.
La seule et unique structure, ouais.
Et d'ailleurs, les dimensions sont dingues. Les sources parlent d'environ 150 yards de long, donc un terrain de foot américain et demi, sur 25 yards de large.
Avec 3 étages, il faut le rappeler, c'est une barge massive.
Une grosse boîte, quoi. Mais le truc qui me frappe le plus, c'est qu'il n'y a aucune technologie de navigation.
Zéro. Pas de voile, pas de rame.
Pas de gouvernail, et donc pas de capitaine à la barre. C'est pour ça que je compare ça à une capsule de survie jetée dans une démolition contrôlée.
Mais il y a un paradoxe fascinant soulevé par le docteur Matthews. Il appelle cette arche une prison de liberté.
Ah oui, ce concept est super intéressant.
Bah oui, parce que comment une boîte sans gouvernail où t'es enfermé dans le noir avec des milliers d'animaux pendant un an peut symboliser la liberté sienne? Moi, ça me paraît super claustrophobe. C'est vrai que l'enfermement est réel. L'arche est scellée. Mais l'absence de gouvernail, c'est une déclaration théologique puissante.
C'est-à-dire que c'est Dieu qui conduit là.
Exactement. La survie n'est plus entre les mains de l'humain. C'est la providence totale. C'est la divinité qui navigue sur ces eaux de mort. L'humain doit lâcher prise.
Et c'est marrant parce que même le nom de Noé joue là-dessus, non?
Ah, tu fais bien de le mentionner. En hébreu, Noé vient de la racine Nuach, qui veut dire repos ou apaisement.
Ouais, et l'arche finit par trouver son repos sur le mont Ararat.
Voilà. Au milieu du chaos absolu, l'arche est le seul lieu d'ordre, le seul endroit où ce repos est possible.
D'accord. Mais du coup, pour comprendre pourquoi ce message d'un dieu protecteur était si vital, faut regarder la carte. À qui s'adressait ce texte à l'époque?
Bah, le public d'origine vit en Cana, donc l'ancien Israël. C'est en plein cœur du croissant fertile.
Sur la carte, ça ressemble vraiment à un pont terrestre.
C'est exactement le terme. C'est un couloir stratégique, le seul passage terrestre entre la mer et les déserts.
Ce qui veut dire qu'ils étaient toujours sur la route des grandes armées, j'imagine.
Exactement, et c'est tout le drame de cette région. À l'est, tu as la Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate.
Les fameux fleuves.
Ouais, mais des fleuves super violents, avec des crues imprévisibles. Et cette instabilité a créé des empires tout aussi instables et agressifs.
Genre les Sumériens, les Akkadiens, tout ça.
C'est ça, les Amourites, avec le code de Hammurabi, puis les Babyloniens, les Assyriens. Ça n'arrêtait pas de changer dans le sang.
D'accord. Et de l'autre côté du pont, au sud, c'est l'Égypte.
Voilà, et là, c'est l'opposé total. Le Nil est hyper prévisible, il déborde régulièrement, c'est super stable. Du coup, la civilisation égyptienne était très constante.
Et au milieu de ces deux rouleaux compresseurs, t'as les Israélites. Leurs conditions de vie devaient être hyper précaires.
Complètement. Leurs ancêtres, les patriarches, avaient un mode de vie dimorphique.
Dimorphique.
C'est-à-dire un pied dans chaque monde.
Oui, ils étaient bergers nomades, mais ils vivaient aussi près des centres urbains, comme Abraham à Hébron. Ils étaient toujours coincés entre ces superpuissances.
Mais du coup, est-ce que vivre sur ce pont terrestre les rendait particulièrement vulnérables à la propagande culturelle de leurs voisins ?
Ah bah c'était une pression constante. Ils étaient bombardés par les mythes des empires d'à côté.
Et quand on dit mythe, on parle pas d'une fable ou d'une fausse histoire un peu sympa. Non, dans l'Antiquité, un mythe, c'est l'infrastructure idéologique de la société. C'est une vérité fondamentale qui justifie l'ordre politique et les conquêtes.
Donc, pour survivre idéologiquement, Israël devait imposer son propre récit.
C'était une question de survie intellectuelle, oui.
Alors justement, regardons un peu la concurrence. Qu'est-ce que racontaient exactement ces fameux mythes égyptiens et mésopotamiens sur la création ?
Si on prend l'Égypte d'abord, à Héliopolis, t'as le dieu Atum. L'histoire dit qu'il se crée lui-même sur une colline sortie de l'eau.
Ok. Et pour créer le reste du monde ?
Bah, c'est très corporel. Il crache, ou parfois il éternue, pour créer d'autres dieux.
Attends, il éternue. L'univers vient d'un éternuement cosmique.
Ouais, c'est très biologique. Et les dieux sont vraiment limités à la nature. Ré, par exemple, il ne contrôle pas le soleil, il est le soleil.
D'accord. Et l'humain dans tout ça ?
Très secondaire. La théologie mymphite parle du dieu Ptah qui utilise la parole magique. Mais souvent, l'humain est juste modelé avec de l'argile sur un tour de potier. D'ailleurs, il n'y a quasiment aucun intérêt pour la création de la femme dans ces textes.
Donc on a des dieux qui éternuent et des humains faits à la chaîne. Ça, c'est pour l'Égypte. Mais à l'Est, en Mésopotamie, c'est comment ?
C'est beaucoup plus violent. Le texte de référence, l'Unuma Elish, raconte une guerre cosmique.
Toujours la guerre avec eux.
C'est ça. Le dieu Marduk affronte Tiamat, qui est l'eau salée, le chaos. Il la tue et il utilise la moitié de son corps, genre comme une palourde géante, pour créer le ciel.
Ouch ! Découper un cadavre pour faire le ciel, c'est super glauque. Et les humains, ils viennent d'où ?
Du sang d'un dieu rebelle, assassiné, Kingo.
Oh waouh ! Donc l'humanité est maudite dès le départ.
Complètement corrompue. Et leur seul but, c'est d'être des esclaves. Ils doivent creuser les canaux pour que les dieux puissent se reposer.
Ça justifie carrément l'esclavage de leur propre peuple, par les rois en fait.
Bah c'est exactement le but politique du mythe.
Et j'imagine que leur récit du déluge est tout aussi sombre. Hein.
Ah oui ! Dans l'épopée de Gilgamesh ou l'Atraasis, tu as un Noé local qui s'appelle Utnapishtim. Mais la raison du déluge est incroyable.
Vas-y, dis-moi.
Les humains faisaient trop de bruit et ça empêchait les dieux dormir.
Sérieux ? Ils exterminent l'humanité à cause du tapage nocturne ?
C'est littéralement ça. Les dieux sont juste excédés par le bruit.
C'est d'une mesquinerie absolue. Et après ce déluge, il n'y a pas cette histoire avec Gilgamesh qui cherche à devenir immortel. Hein.
Si, il trouve une plante de jouvence au fond de l'eau.
Ok, la solution miracle.
Sauf que pendant qu'il se lave, un serpent surgit et lui vole la plante.
Bon, là, faut qu'on s'arrête deux secondes.
Je t'écoute.
Si les mythes mésopotamiens parlent d'un déluge, d'un survivant avec un bateau, et même d'un serpent qui gâche tout, est-ce que le texte de la Genèse, c'est pas juste un bon gros plagiat ?
C'est une objection super courante et c'est normal de se poser la question.
Bah oui, les ressemblances sont énormes.
Mais le docteur Matthews utilise l'idée du mobilier culturel pour expliquer ça. En gros, ils partagent tous une mémoire culturelle commune. C'est pas un emprunt direct, c'est l'utilisation des mêmes éléments pour dire tout à fait autre chose.
Un genre de renversement polémique ?
Exactement. Dans la Genèse, c'est l'inverse des mythes païens. Dieu n'est pas égoïste, il n'est pas dérangé par le bruit, il est séparé de la nature. Il crée l'humain par amour, pas pour en faire un esclave.
Et du coup, le déluge, c'est pas une crise de nerfs divine.
Non, c'est une réponse strictement morale à une violence dévastatrice. Ça change tout.
Ouais, ça donne un sens au chaos. D'ailleurs, en parlant d'ordre et de sens, comment le texte biblique prouve-t-il, par sa forme, que le monde est régi par un dieu bienveillant ?
Déjà, la structure même du récit est bluffante. Il y a des répétitions mathématiques hyper précises.
Du genre ?
Tu as des cycles, le chiffre 7, les 40 jours, les 150 jours, et ça monte, puis ça redescend en symétrie. C'est ce qu'on appelle un chiasme.
D'accord, donc c'est très organisé.
Très. Ça prouve que c'est une œuvre littéraire cohérente, pas juste un assemblage de vieux textes recollés ensemble.
Mais il y a cette notion d'alliance aussi. C'est mentionné au chapitre 6, non ?
Oui, le verset 18. Dieu fait une alliance avec les 8 personnes de l'arche. Et c'est la toute première fois que ce mot apparaît dans la Bible.
Et ça, c'est radical par rapport au dieu babylonien qu'il fallait nourrir pour pas qu'il se fâche.
Totalement. Ici, c'est pas une transaction commerciale, c'est une relation. Dieu s'engage à les protéger.
Et le vocabulaire appuie ça, je crois. Le mot hébreu pour l'arche, il est assez spécial.
Très spécial, oui. C'est le mot théba. Et devine quoi?
Ah bon?
Où ça? Dans Exode 2. C'est le mot utilisé pour décrire le panier de Moïse sur le Nil.
Ah waouh! Donc le panier de Moïse et le bateau de Noé, c'est le même mot.
Exactement. Dans les deux cas, ça flotte sur les eaux de la mort pour préserver un sauveur.
C'est super poétique et ça montre vraiment que Dieu supervise l'histoire. Il y a un autre détail qui m'a marqué dans les notes. C'est dans Genèse 7:16. Quand Noé entre dans l'arche, c'est l'Éternel lui-même qui ferme la porte derrière lui.
Oui, c'est un geste d'une intimité incroyable.
Mais c'est clair. Faut imaginer l'effet sur un ancien Israélite qui dit ça. Le mec vit dans la terreur des empires assyriens, de la violence, et là on lui dit que le Créateur du monde prend le temps de verrouiller la porte de l'extérieur pour le protéger. Ça devait être tellement réconfortant.
C'était un message d'espoir fondamental. Noé devient un nouvel Adam, en fait. Il offre un nouveau départ à l'humanité sous le sceau de cette promesse. La vie est préservée par la grâce.
Oui, c'est vraiment autre chose que l'histoire pour enfants qu'on connaît. Comprendre la Genèse, c'est voir comment tout un peuple a eu le courage de défier des visions du monde sanguinaire. Ils ont affirmé que l'univers a un sens moral.
C'est une révolution de la pensée, clairement.
Mais bon, on va pas se quitter sur une note de conte de fées parce que le texte biblique est beaucoup trop réaliste pour ça. Il y a un détail très troublant à la fin des sources étudiées.
Ah oui, le fameux chapitre 9.
Voilà. Les eaux se retirent, l'arche se pose, la nouvelle humanité débarque dans ce monde purifié. On s'attend à ce que tout soit parfait. Mais que se passe-t-il?
Eh bien, Noé plante une vigne, il s'enivre, il finit nu dans sa tente, et ça se termine par une énorme malédiction familiale sur sa descendance.
C'est glaçant quand on y pense. Le déluge a nettoyé toute la surface de la terre de sa violence.
Mais il n'a pas pu nettoyer le cœur humain.
C'est exactement ça. Le virus était à l'intérieur de l'arche, avec eux. L'humanité recommence, et la première chose qu'elle fait, c'est s'effondrer moralement. C'est une limite vertigineuse du jugement par la force. Je trouve que c'est une sacrée question à méditer pour ceux qui vont se replonger dans ces textes.
C'est une excellente piste de réflexion, oui.
En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette exploration. On espère que ça vous a donné envie de lire entre les lignes. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans ces récits anciens.